Il est 11h23 minutes. On a Claude Reichmann. Monsieur Reichmann, bonjour.
Bonjour.
On vous l'a dit tout à l'heure, là, c'est un grand salon là ici. Là. Alors, qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez à boire?
Un salon où l'on cause, comme on dit.
Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous voulez avoir? Un scotch, un whisky, je sais pas?
Bon, écoutez, non, franchement, pas d'alcool, mais
un
jus de pomme. Je crois que vous avez de bons jus de pomme au Canada.
Ben, d'excellents jus de pomme, je vous en assure.
Ah ben, avec grand plaisir.
Bon, alors, voilà, c'est fait. Je vous le donne et je vous lance la première balle. La morlante de Radio Courtoisie, on en a parlé un peu hors d'onde. Je veux pas qu'on s'étende trop longtemps sur ce sujet parce que on risquerait de tourner en rond. Y a pas à dire grand chose que le départ de monsieur, attendez là, comment il s'appelle déjà, Jean-Marie
Maliarakis.
Alors
Jean-Gilles Maliarakis. Oui.
D'accord. Il a commencé en même temps que vous avant?
À peu près à la même époque, un petit peu avant, donc ça doit faire 17 ans pour lui, je crois. Et c'est donc un des historiques, comme on dit, de la radio. Et il a décidé de partir tout simplement parce qu'il a constaté que la liberté ne régnait plus du tout au sein de Radio Courtoisie, ce qu'il savait depuis longtemps déjà, mais ses amis le pressaient de ne pas partir tout de suite, de manière à ne pas laisser la place vide, mais il n'a pas pu manifestement résister au climat intolérable qui règne à la radio, un climat de crainte, un climat de menace permanente, et donc il a préféré prendre la liberté de partir. Il l'a fait d'ailleurs dans des conditions qui sont très particulières, puisqu'il a, au cours de son émission, par la ruse, il a donné la parole au téléphone à Jean-Luc de Carbuccia, qui a été exclu lui-même et qui était interdit d'antenne. Donc c'est un véritable... une véritable ruse qu'a employé Jean-Gilles Maliarakis pour donner la parole à Jean-Luc de Carbuccia, qui est, signalons-le tout de même, l'exécuteur testamentaire de Jean Ferré, et donc qui a évidemment un poids moral considérable, et il est quand même extraordinaire de se dire que le meilleur ami de Jean Ferré, le cofondateur de la radio, est l'homme sur qui Jean Ferré comptait pour assurer la réalisation de son héritage, etc., pour publier ses écrits. Bref, cet homme a été exclu sans motif particulier, d'ailleurs, sauf qu'il avait fait une association et qu'on a bien le droit de s'associer en France, comme partout, je crois, dans le monde, dans les pays développés. Et donc, ça n'a pas plu à M. de Lesquin, qui a voulu l'exclure. Et donc, M. de Carbuccia s'est retrouvé privé de parole sur Radio Courtoisie, qu'il avait porté sur les fonds baptismaux. Et donc Jean-Gilles Maliarakis a voulu partir sur un coup d'éclat qu'il a d'ailleurs réalisé fort bien, et au cours duquel Monsieur de Carbuccia a indiqué que tous ceux qui se prétendraient les successeurs de Jean Ferré dans les conditions actuelles ne le sont évidemment pas, et que il faut rétablir un fonctionnement normal et fondé sur la participation de tous à Radio Courtoisie. Cela dit, c'est une crise extrêmement grave parce que les principaux fondateurs de la radio sont exclus, des patrons d'émissions historiques sont exclus aussi, ou s'en vont d'eux-mêmes avant d'être exclus, comme Jean-Gilles Maliarakis, si bien que les auditeurs sont quand même très perturbés par tout cela et se demandent comment tout cela va finir, et on ne voit guère que deux issues, soit le départ de M. de Lesquin, qui comprendrait, s'il est capable de le comprendre, que sa présence à la tête de la radio conduit celle-ci à la catastrophe, soit tout simplement la catastrophe qui arriverait parce que la radio ne parviendrait plus à avoir les finances nécessaires pour émettre, puisque je vous le rappelle, Radio Courtoisie est une radio dont les finances sont assurées exclusivement par les cotisations des auditeurs.
Exactement, c'est vrai.
Voilà. Et si ceux-ci ne cotisent plus, il est évident que la radio ne pourra plus fonctionner, d'autant qu'elle a un budget qui, d'après ce qu'on m'a dit, était quand même très largement déficitaire, qui a un découvert important. Et donc, on voit mal la situation pouvoir durer très longtemps comme ça. C'est assez navrant, d'ailleurs, parce que Jean Ferré a mis 19 ans à monter cette radio, si je puis dire. Enfin, elle a été montée il y a 19 ans, mais elle a fonctionné pendant 19 ans à la satisfaction générale, je crois. C'est-à-dire que toutes les tendances de la droite ont pu s'exprimer. D'autre part, les auditeurs lui ont manifesté une fidélité qui n'a jamais fait défaut, jusqu'à ce qu'arrive un personnage qui, manifestement, n'a pas bien compris le film, et qui va soit tuer la radio, parce que c'est ce qui risque d'arriver, soit tout simplement la mettre dans un tel état qu'il sera très difficile de la redresser.
Ce que je me demande aussi, c'est comment il est arrivé là, cet homme qui se croit un génie là, enfin, de la radio, parce que là, les gens quittent la radio courtoisie, des grosses têtes telles que vous,
oui.
Si je peux me permettre ce qualificatif,
et
d'une certaine façon quand même, vous étiez là depuis...
Ben, il est arrivé un peu par ma faute, figurez-vous.
Je vais modérer tout de suite.
En réalité, j'ai pris l'initiative il y a déjà de cela 2 ans environ, avec quelques autres amis, dont Jean-Gilles Maliarakis d'ailleurs, de me soucier avec les autres
oui.
des statuts de Radio Courtoisie, parce que nous ne savions pas grand-chose. Nous faisions confiance à Jean Ferré, qui effectivement avait dirigé la radio très bien pendant toutes ces années, et nous pensions que, comme c'était un homme sérieux et responsable et prudent, qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires. Alors il s'est vite révélé qu'en réalité, il n'avait pris aucune précaution, que les statuts n'avaient jamais fonctionné depuis 19 ans, et donc il fallait essayer de remettre tout ça d'aplomb avant que, hélas, l'issue fatale dont était menacé Jean Ferré ne survienne, puisqu'il était très malade. Donc nous nous sommes réunis, la plupart des patrons d'émission, un nombre d'ailleurs en nombre croissant, et au mois de janvier 2006, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, nous avons demandé à M. Delesquin, qui, du fait qu'il est un haut fonctionnaire, était censé avoir des connaissances administratives un peu supérieures à la moyenne, de voir avec Jean Ferré comment on pourrait mettre les statuts en ordre. Alors il en a profité pour se bombarder à la tête de la radio, et c'est moi qui lui ai envoyé les statuts, je m'en souviens très bien, à l'issue d'une réunion au cours de laquelle nous avions décidé en effet qu'il serait bon que ces statuts soient revus, ou plutôt mis en œuvre. Et donc je suis, si vous voulez, j'ai été un peu l'instrument du destin, mais enfin ça n'est pas ma décision à moi, c'est la décision de l'ensemble des patrons d'émission. Alors il s'est passé quelque chose de très curieux, c'est que ensuite nous avons appris qu'une assemblée générale se serait tenue presque un an auparavant. Alors nous avons tous été très surpris, parce que dans notre esprit rien ne s'était passé avant le mois de janvier 2006. Or il y a une assemblée générale, en tout cas elle est actée et déposée à la préfecture, qui se serait tenue le 30 juin 2005, ce qui veut dire que soit que cette assemblée ne s'est jamais tenue et qu'on a antidaté des documents, soit qu'elle s'est bien tenue et qu'à ce moment-là Monsieur Delesquin a joué un rôle curieux en prétendant qu'il n'était au courant de rien. Donc tout ceci est assez trouble. Bon, ça va être éclairci par la justice, puisqu'il y a une instance qui vient dans quelques jours.
Oui, exactement.
Et la justice est lente et les événements vont vite. Donc si la justice ne tranche pas l'affaire rapidement, il est à craindre que d'instance judiciaire en appel ou en autre procédure, la radio ne résiste pas.
Et vous, là, dans toute cette poursuite, là, enfin, dans au niveau de la justice, là, de ce qui a été déposé, comment...
Pardon?
Allez-y.
Je n'ai pas très bien compris votre question.
Oui, c'est ça. Dans le fond, par rapport à cette décision de la justice, qui va arriver quand exactement?
Écoutez, il y a une instance, je crois que c'est le 7 mars.
Le 7 mars,
okay. Si elle se tient à la date prévue, il devrait y avoir 15 jours après une décision... Mais cette décision ne sera pas forcément définitive. Vous savez, la justice est très compliquée, et comme je vous le disais, c'est souvent très lent, et donc il y a des reports, il y a des renvois, comme on dit, et donc il peut y avoir des retards. Donc, mais en ce qui me concerne, moi j'ai mené une action judiciaire qui a abouti au résultat que je souhaitais, puisqu'elle a permis d'obtenir tous les papiers. Donc nous savons maintenant exactement quels sont les papiers qu'il s'agit de vérifier, et selon le jugement que prendra le tribunal, eh bien Monsieur Delesquin sera soit confirmé, soit déposé.
Oui, c'est ça que d'accord.
La demande qui est faite par c'est un des administrateurs, enfin plutôt un des fondateurs de la radio, qui a fait cette instance judiciaire soutenue par l'association des patrons d'émissions qui s'est créée au mois de janvier dernier, et qui demande la nomination d'un administrateur provisoire, car il dit que cette assemblée, l'assemblée qui a nommé M. Delesquin, ne s'est pas tenue régulièrement, puisque lui, membre fondateur, n'a pas été convoqué, ce qui était évidemment l'obligation statutaire. Donc si la justice dit qu'en effet cette assemblée n'est pas régulière, M. Delesquin n'aura plus aucun pouvoir. Maintenant, si la justice prend son temps, ou tout simplement dit, parce qu'il s'agit d'une instance dite de référé, c'est-à-dire que elle ne peut concerner que des questions de forme. Si la justice dit qu'elle n'est pas compétente pour traiter ce problème en référé, alors là, ce sera renvoyé à une autre instance, et donc ça risque de prendre du temps. Mais comme je vous le disais, le temps actuellement est précieux et très compté, et on ne peut pas vraiment sérieusement espérer que la radio sera sauvée si l'ambiance actuelle continue.
Mais votre sentiment, M. Reichmann, est-ce qu'elle va sauver ou pas?
Écoutez, je suis partagé entre l'optimisme et le pessimisme.
Ouais,
j'ai un optimisme assez fondamental qui consiste à me dire qu'après tout, l'intelligence et la bonne volonté vont finir par triompher. Et en même temps, j'ai quand même une certaine expérience de la vie et des hommes. Et je me dis que, étant donné que trop de mauvais génies se sont penchés maintenant sur la radio pour qu'elle en sorte indemne, donc je suis dans une phase d'expectative, et je dois dire que c'est assez désagréable pour moi, parce que je suis quand même, j'ai investi 16 années de ma vie dans la radio,
c'est ah oui.
que j'ai investi à titre purement bénévole, hein, mais enfin j'y ai fait beaucoup d'émissions, j'ai lancé beaucoup de sujets, donc j'ai donné la parole à des gens qui méritaient de l'avoir et qui n'étaient pas entendus ailleurs. Et donc tout ceci, c'est un peu dommage de se dire que ça va finir comme ça. Mais enfin, que voulez-vous, c'est la loi de la vie, on verra bien.
On m'a fait écouter le mercredi, je crois, c'est quand même assez tard de votre côté, quelque chose d'assez douloureux pour mes oreilles. Et
oui.
Vraiment, je peux n'en tirer qu'une expérience très amère de cette émission, la seule qui reste, je crois, non, il y en a sûrement d'autres, c'est de Beketch, et
oui.
c'était affreux, c'est quoi?
Bon, c'est un insulteur professionnel, donc, vous savez, faut pas s'étonner de...
Ah, mais moi aussi, M. Reichmann, faites attention, moi aussi, je suis un insulteur professionnel.
Bah écoutez, je vous connais un peu maintenant, ça fait quelque temps qu'on fait des émissions ensemble,
oui.
Mais j'ai l'impression que quand vous êtes, non pas un insulteur, mais vous êtes quelqu'un de vif et de pointu, et donc vous essayez d'obtenir des résultats et d'obtenir des informations, donc ça c'est tout à fait normal, mais monsieur de Beketch, quant à lui, je ne me souviens pas de... Je n'ai pas écouté, pour tout dire, son émission, et on m'a donné quelques extraits écrits.
Très pénible, bon, très pénible.
C'est assez honteux, quoi, même. Je me demande comment un homme peut dire des choses pareilles. C'est assez curieux, quoi, je veux dire. Si on se respecte, on ne parle pas comme ça, quoi. Même si on n'aime pas quelqu'un, bon, on a quand même un peu de dignité à avoir par rapport à soi-même. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça.
Tout à fait, M. Reichmann. Juste pour changer, tout simplement,
oui.
Faire du coq à l'âne.
Oui.
Il y a faux...
J'espère que l'âne, ce n'est pas pour moi.
Non. pas du tout, inquiétez-vous pas. Je suis pas ce genre de journaliste qui va vous tendre un piège. Enfin, à mes amis, même si vous êtes loin, je vous considère, je vous dis amis, je le pense.
C'est gentil à vous, et ce sentiment est réciproque.
Je n'irai pas vous faire un coup de cochon, comme on dit en québécois. Je ne vous tendrai pas ce genre de piège-là. Il y a Fofana qui, ça refait surface aujourd'hui, concernant ce qu'il avait fait à l'endroit. Je ne me rappelle plus exactement le prénom et nom de l'individu qu'il avait assassiné.
Mais... Ilan Halimi.
Oui, alors...
Il avait assassiné un jeune homme de religion juive. Et après l'avoir séquestré dans des conditions abominables, il a été arrêté en Côte d'Ivoire, dont il est originaire, puis transféré en France. Et effectivement, d'après ce que dit la presse, il passe son temps à insulter les magistrats. Enfin, bref, c'est un type qui doit être quand même fortement détraqué. Mais c'est une affaire évidemment très très douloureuse qui a plongé dans le malheur une famille qui n'en demandait pas tant.
Mais je vous demande ceci, M. Reichmann, comment se fait-il que cet individu-là a des avocats?
Ben, il a des avocats d'abord. Vous savez, même les pires individus ont droit à un avocat. Ça, c'est quelque chose, c'est une règle du droit occidental, une règle fondamentale de la liberté. Ça, c'est une chose. Vous savez que même si quelqu'un... S'il y a un avocat, aucun avocat ne se présente pour défendre quelqu'un, à ce moment-là, cette personne se voit attribuer un avocat commis d'office. Et là, les avocats s'y prêtent parce que c'est leur devoir. Cela dit, je crois qu'aucun de ces avocats n'a été commis d'office. Ils étaient, je crois, volontaires. Et donc, on peut comprendre, évidemment, l'aspect négatif, c'est peut-être l'aspect publicitaire que peut revêtir une cause même très mauvaise.
Oui.
Mais je crois que ces avocats ont très vite été découragés de défendre Fofana parce que d'abord il les éjecte les uns après les autres et puis il a un comportement vis-à-vis de ses avocats ou de la justice qui est totalement incohérent et donc ça rend les choses très très difficiles.
Exactement. Mais comment se fait-il qu'on donne du temps écrit à cet individu-là qui a fait un geste mais totalement malade là, faut pas s'en cacher.
Quoi, t'es pas entendu?
J'ai dit comment se fait-il qu'on donne du temps écrit, par exemple? Oui.
Bah oui, les journaux en parlent, mais vous savez, bon, c'est toujours la même chose. C'est un acte monstrueux qu'il a commis.
Mais justement.
Il a commis un acte monstrueux. En tout cas, il est accusé d'avoir commis cet acte et les monstruosités font vendre. Et donc. Les journalistes ont le souci, qu'on peut comprendre à la limite, de faire des articles qui se lisent et des journaux qui se vendent. Mais il est vrai que le silence serait certainement un meilleur remède que la publicité autour de ce personnage abominable.
Croyez-vous, c'est dire, ici j'ai une belle phrase, M. Reichmann, de Fofana, c'est ça, qui
oui.
dit « C'est dur souvent de se dire qu'à 26 ans, on va vous retirer toute liberté. Dans mon malheur, je dois positiver, sinon je risque la dépression. » Est-ce que ça vous fait quelque chose?
Bah écoutez, je pense que pour une fois, il est assez réaliste. Il a bien analysé sa situation. Je crois en effet que la prison à vie lui est promise. En tout cas, ça semble une probabilité. Et quant à la dépression, c'est ce qui menace toute personne se trouvant privée d'espoir, privée d'avenir et privée de liberté. Mais le problème est toujours le même. La lucidité, même si elle est très momentanée, est une chose, mais la lucidité, il faut l'avoir avant de commettre des actes abominables. Donc là, il avait tout le temps de retrouver sa lucidité parce que le calvaire de Ilan Halimi a duré pendant des jours. Et peut-être même des semaines, si je me souviens bien. Et donc, M. Fofana avait tout le temps de se reprendre. Et il ne l'a pas fait. Ce qui prouve qu'il n'est pas totalement digne de...
Parce qu'on nous dit...
En ce qui concerne ça.
Parce qu'on nous dit, via le live, @rocky.com, des Français nous disent, chez nous, les victimes, ce sont les coupables.
Ah oui, il y a effectivement en France actuellement ce qu'on appelle une victimisation, c'est-à-dire c'est une tendance qui est issue de la gauche et de l'extrême gauche surtout, qui consiste à dire que les personnes qui commettent des actes criminels n'en sont pas responsables, c'est la société qui est responsable parce qu'elle les a mis dans une situation où elle ne pouvait pas faire autrement que de commettre des crimes ou des actes criminels, C'est une tendance qui est très ancienne et qui règne encore beaucoup dans certains médias. L'opinion publique, quant à elle, ça je peux vous l'affirmer, n'est pas dupe de ce genre d'explication.
J'espère que non.
Chacun se rend bien compte que à ce moment-là, il n'y a plus de responsabilité, il n'y a donc plus de liberté. Donc,
c'est ça.
Fait, la société a ses responsabilités, c'est évident.
Parce que c'est comme le monde à l'envers, Monsieur Reichmann. Les victimes sont coupables et les coupables sont victimes.
Oui, d'ailleurs, pour un peu, et je l'ai même vu parfois, on disait, mais enfin, cette victime, elle n'avait qu'à ne pas se trouver là. Vous vous rendez compte?
Et voilà!
C'est épouvantable.
C'est dégueulasse, oui.
Oui, franchement. Disons le mot, ou tranchons le mot, comme disait le général de Gaulle.
Ah oui, oui. Exactement.
Tranchons le mot.
Et du côté, si on regarde un petit volte-face concernant la politique, j'ai l'impression que c'est calme de votre côté, qu'il n'y a pas eu de d'éclat concernant Serko ou encore Sego ou Bayrou ou même encore le.
Il y a un certain calme en ce moment parce que dans la région parisienne et dans la région de Bordeaux, ce sont les vacances scolaires.
Ah.
Alors, les éditorialistes parisiens sont en vacances. Les Bordelais sans doute aussi, mais c'est moins important sur le plan de la presse nationale.
C'est ça.
Et donc, il y a une espèce de calme qui s'est établi, mais enfin, c'est un calme très relatif. Alors, vous savez, il y a un phénomène qui est très curieux. Alors, j'avoue que je ne m'explique pas très bien. On nous avait dit, il y a quelques années, que les vacances scolaires seraient désormais différentes, c'est-à-dire qu'il y aurait une période de vacances d'une huitaine de jours toutes les 7 semaines. Or, je constate, en regardant le calendrier, que ça revient beaucoup plus vite, puisque quand les enfants vont rentrer pour la zone de Paris lundi prochain à l'école, il leur restera un petit mois et non pas 7 semaines avant de partir en vacances de Pâques. Si bien que finalement, la vie entière du pays dépend des vacances scolaires, ça n'est pas nouveau, et dépend d'un rythme qui est totalement contraire à n'importe quelle logique économique, parce que quand un pays s'arrête toutes les 5 semaines, c'est très curieux, c'est que quand vous regardez l'origine des vacances scolaires, vous vous apercevez que ça remonte en fait au 19e siècle, et même un peu avant, c'est surtout au 19e siècle, avec notamment l'éducation s'est développée à partir de la réforme de Napoléon, puis ensuite de la Troisième République, mais les vacances scolaires étaient de 3 mois pendant les mois d'été. C'est-à-dire, en gros, c'était juillet, août, septembre, parce que c'était le temps des moissons et des vendanges. Et la France était un pays essentiellement rural, agricole. Et ensuite, ça a été un acquis. Il y a 3 mois de vacances. Alors, comme on ne pouvait plus les répartir de la même manière, on a réparti les 3 mois tout au long de l'année. Et ensuite, on a trouvé d'autres raisons, en disant en particulier, les vacances de février, c'est ennuyeux, mais il faut peut-être les étendre un peu, parce que pour que les gens puissent aller au ski. Alors, si bien que vous avez un système scolaire et de vacances qui dépend d'un monde rural disparu, parce qu'on a maintenu les 3 mois de vacances sous une forme différente, et d'autre part, vous avez une hausse permanente des temps de vacances qui font que la plupart des femmes travaillent maintenant, et lorsqu'elles ont des enfants, leur souci c'est de savoir ce qu'elles vont faire de leurs enfants pendant les vacances, puisque quand il y a des gens qui travaillent ne peuvent pas partir tout le temps. Si bien qu'on a vraiment une situation absolument extravagante, qui consiste à être un pays qui se prétend moderne et à vivre selon des canons qui, au fond, ont été élaborés au 19e siècle. Et là, c'est encore une de ces ruptures qu'il va falloir avoir en France, parce que il va falloir remettre les Français au travail.
Voilà. Combien d'heures par semaine un Français travaille? Parce que je peux tout de suite vous dire exactement, un Américain travaille aux États-Unis, là, attention, pas au Canada, mais aux États-Unis, c'est 82 heures par semaine.
En France, c'est 35 heures. Officiellement, c'est 35 heures semaine.
Et voilà pourquoi il y a un gros problème, justement, au niveau de l'économie.
Et oui, et je vais même vous donner un exemple qui est très frappant et que on ne relève pas suffisamment. Si vous prenez un Français de 65 ans et un Américain de 65 ans, eh bien, l'Américain ou le Français, pour faire la comparaison, aura travaillé à 65 ans 11 ans de moins que l'Américain. Pour une raison simple, c'est que la durée du travail est plus courte en France. Donc, si on prend l'exemple d'un Français de 25 ans qui aurait travaillé 40 ans, d'un Américain qui serait dans la même situation, il aurait, pendant tout le temps où il était en activité, travaillé 6 ans de moins que l'Américain. Et comme on part en retraite officiellement à 60 ans en France et à 65 ans aux États-Unis en moyenne, ça fait 50 plus. Donc 6 et 5, ça fait 11. Si bien que le Français de 65 ans a travaillé 11 ans de moins que l'Américain de 65 ans. Et voilà pourquoi les Américains sont riches et les Français sont pauvres.
C'est une des premières causes. Parce qu'on regarde, vous avez vu le crash de la bourse à Shanghai?
Oui.
Vous en avez entendu parler?
Oui, bien sûr. Celui qui a touché toutes les bourses occidentales. Il y a une très forte baisse des bourses qui sont. C'est dû aux. Les raisons sont confondues d'ailleurs. Shanghai, c'est parce qu'il y a une crainte de récession, et parce que aux États-Unis également il y a une crainte de ralentissement qui a été un tout petit peu suscitée par l'ancien responsable de la Banque fédérale américaine, Monsieur Alan Greenspan, qui a exprimé quelques craintes. Alors certains le soupçonnent de n'avoir exprimé des craintes que pour obtenir un petit ralentissement de l'économie dont il craignait la surchauffe. Enfin, toujours est-il que le résultat est là. Les bourses ont plongé du nez et apparemment, aujourd'hui, elles continuent de reculer encore. Donc, c'est assez préoccupant.
Et en sachant que, de toute manière, en France, comme au Québec, c'est mal de travailler, M. Reichmann.
Oui. C'est mal. Vous voulez dire que c'est mal considéré?
Oui, c'est mal considéré.
C'est-à-dire que, au Québec, je ne sais pas si on est entouré de l'opprobre général, mais en France, celui qui travaille, en réalité, non. on ne le critique pas, mais on l'exploite.
On le taxe, c'est ça?
On le taxe, voilà, c'est bien pire. Parce que si on se contentait de le critiquer en lui laissant profiter des fruits de son travail, il se dirait, bon, on me critique, mais au fond, ça m'est égal. En revanche, à partir du moment où tous ceux qui ne travaillent pas bénéficient de l'activité, des efforts et de la transpiration de ceux qui travaillent, là, il y a un moment où les choses deviennent insupportables. Et le découragement des Français est réel, et ça a une conséquence terrible, c'est que le recul de l'économie française fait qu'il y a des emplois qui disparaissent régulièrement. Chaque jour, il y a 150, 200, 300, 400, 500, 1000 emplois qui disparaissent. Et au bout d'un moment, c'est un véritable sinistre. Et là, actuellement, on est dans une situation extrêmement inquiétante, dont les raisons sont simples, finalement. Les Français, se sont, par la faute de leurs dirigeants, se sont rués sur le non-travail et, d'autre part, ils n'ont pas fait les réformes nécessaires pour se mettre en phase avec la mondialisation de l'économie.
Mais Monsieur Reichmann,
la France a ouvert ses frontières au niveau européen et au niveau mondial,
c'est ça.
Mais elle n'a pris aucune mesure, et en particulier pas sur la protection sociale, pour rendre les entreprises plus compétitives. Donc on paye aujourd'hui le résultat de ces erreurs.
Hélas, ça
ne va pas s'arranger, puisque aucun des candidats à la présidence de la République ne dispose du moindre plan permettant de changer cela. Ce sont des petits remèdes, des artefacts, enfin des remèdes qu'on pourrait qualifier de remèdes un petit peu placebo, quoi, si vous voulez. Ce sont des pseudo-remèdes qui n'apporteront rien, et je suis assez inquiet sur ce qui va se passer en France à cause de cela.
Mais Monsieur Reichmann, moi en tout cas, c'est une idée qui m'est venue, et ça fait longtemps que j'y pense, c'est-à-dire, aussitôt que j'en ai les moyens, je quitte l'endroit où ce que je suis et je vais me trouver dans un paradis fiscal.
Bah écoutez, si d'abord c'est tout le mal que je vous souhaite, ça voudra dire que vous aurez les moyens d'une part, et que d'autre part vous aurez pu vous mettre à l'abri des prédateurs qui cherchent absolument à vous diminuer dans votre bien-être et dans le résultat de vos efforts. Mais si vous voulez, c'est une situation qui est quand même très très navrante, parce que chacun, je crois, bénéficie d'un certain patriotisme, ressent un certain patriotisme, et moi j'aime mon pays, et j'avoue que le quitter serait pour moi quelque chose de terrible.
Attention, on peut faire en sorte que notre entreprise soit ailleurs et que nous on soit toujours sur place.
Bien, vous avez raison, d'ailleurs c'est ce que font de plus en plus de gens, et c'est ce qui va être inévitable, puisque maintenant que les frontières sont ouvertes, que les lois internationales et surtout européennes font que vous pouvez parfaitement monter une entreprise dans un pays autre que le vôtre et y exercer vos activités, ben, tout ceci fait que la situation actuelle ne peut pas durer.
À distance, c'est aussi simple que ça. À distance, on promouvoit nos... C'est aussi simple que ça. C'est tellement facile, Monsieur Reichmann. Vous allez faire en sorte que vos services, vous allez promouvoir, exemple, en France, mais vous êtes complètement, je sais pas moi, à Taïwan ou quelque chose comme ça. C'est pas un...
Ah oui, mais c'est tout... Mais ce que nous faisons en ce moment, à part que ce que nous faisons est gratuit, mais si c'était payant, c'est exactement ce que nous ferions, puisque vous êtes au Québec, je suis à Paris.
Et voilà.
Votre serveur est au Texas.
Oui.
Et nous parlons comme ça très librement, donc nous n'avons aucun besoin d'être matériellement au même endroit.
Exact.
Pour faire une émission de radio.
Voilà.
Ça, et c'est vrai pour tous les services. Quand vous avez un problème avec un matériel quelconque et vous appelez le service après-vente, ben le plus souvent c'est un centre d'appel qui peut se trouver aussi bien à côté de chez vous, à votre porte, qu'à 8000 km. C'est comme ça que les choses se font dans tout le domaine des services. Tout ce qui est immatériel désormais ne peut plus faire l'objet d'un contrôle géographique. Donc c'est ça qui est extrêmement important.
Et surtout que la compétition est de plus en plus féroce, on se le cachera pas. Si je vous donne le système Skype, tout le monde a déjà entendu parler du système Skype, qui est totalement gratuit. Encore Vonage. Vonage est une autre compagnie qui est américaine et qui, par exemple, vous payez... Ben là, c'est sûr que je vous le donne en canadien, mais ça coûte 39, c'est 40 dollars canadiens, ce qui doit donner aux alentours de 50 euros, quelque chose comme ça.
C'est cela, oui. C'est le téléphone quasi gratuit.
Ben oui.
Et d'ailleurs, c'est également vrai de la télévision qui va, dans les années qui viennent... pratiquement disparaître dans sa forme actuelle. C'est-à-dire que les grandes chaînes de télévision vont désormais éclater. Vous aurez de la télévision par Internet, par téléphone, par tous les moyens. Ben, nous, c'est ce que nous avons fait avec Reichmann TV. Vous pouvez regarder à tout moment une émission qui est censée vous intéresser, en tout cas en
l'espère. Oui, 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 c'est intéressant.
En vous trouvant que vous vous trouviez au Québec, à Taïwan ou ailleurs. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque nous avons un public qui vient du monde entier. Ce sont des francophones du monde entier.
Monsieur Reichmann.
Aussi, bien sûr.
Ben oui, tout à fait. Alors, j'irai vous chercher, Monsieur Reichmann, aussitôt que j'en aurai les moyens. On fera affaire ensemble.
Ah, ben c'est très gentil. C'est-à-dire que le premier de nous deux qui aura les moyens aide l'autre, c'est ça.
C'est comme ça que ça fonctionne, on travaille en équipe.
Voilà, c'est très sympathique.
Monsieur Reichmann, je vous souhaite un excellent week-end. On se reparle la semaine prochaine, si possible, même heure, même poste.
En principe, même heure, même poste, et de toute façon, d'accord pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème.
C'est toujours
bonne
un plaisir.
Bonne continuation d'émission et bon week-end.
Vous aussi, M. Reichmann, au revoir.
Allez, au revoir.
Au revoir. Alors, c'était Claude Reichmann que vous venez tout juste d'entendre. On s'arrête un tout petit instant et on parle à qui donc? Ah oui, Miss Diamond.
La terreur.
Cover me.
Le massacre.
We've got an intruder on board.
La bataille.
What's happening?
Oh. Recommence.
Something's not right here.
Rocket.
Rocket.com.